L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, en Suisse, une idée originale concernant les étudiants pour mieux préserver le climat. En France, une plainte contre l'État déposée par le maire d'une commune qui reproche au gouvernement son inaction climatique. Au menu également la Belgique qui se rapproche des Pays-Bas pour aller exploiter les ressources minières de l'espace. Le Québec qui assouplit les règles d'enregistrement des armes à feu et on verra que ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis en Afrique, ça faisait un demi-siècle que la population attendait ce projet. Un pont enfin inauguré entre la Gambie et le Sénégal. Voilà pour le programme francophone. Bienvenue à tous. L'ONU a nommé un nouvel envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Il s'agit d'un diplomate chinois et c'est une nomination très symbolique, Marie-Pierre Olfand.
Oui, c'est une nomination qui illustre surtout l'influence grandissante de la Chine aux Nations Unies. La Chine n'avait jusqu'ici encore aucun diplomate à un poste hiérarchique aussi élevé dans l'organigramme de l'ONU. Pékin est le deuxième contributeur financier au budget régulier et au budget de maintien de la paix. Une implication financière remerciée en quelque sorte aujourd'hui par ce poste. Le diplomate nommé mais a été plusieurs fois ambassadeur sur le continent africain. Il doit remplacer l'Algérien Saïd Djinit qui occupait cette fonction depuis 2014.
En France, le constructeur automobile Renault tourne la page Carlos Ghosn avec la nomination d'un nouveau président. Il s'appelle Jean-Dominique Senard, jusqu'ici président des pneus Michelin. Carlos Ghosn est toujours emprisonné au Japon dans l'attente de son procès, empêtré dans des soupçons de corruption. Il avait démissionné mercredi de son poste de PDG de Renault. En Belgique, Nathalie De Vic, pendant que les jeunes étudiants défilaient une nouvelle fois et de plus en plus nombreux pour le climat, eh bien la soprano américaine Barbara Hendricks s'est rendue à l'université.
Oui, mais c'est en sa qualité d'ambassadrice du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies qu'elle a visité l'Université libre de Bruxelles, première université belge à proposer depuis 4 ans un programme spécifique pour les réfugiés. L'objectif, c'est de leur permettre de poursuivre le parcours académique entamé dans leur pays avant d'avoir dû le fuir, qu'ils puissent ainsi continuer à valoriser leurs acquis dans leur pays d'accueil, gage d'une meilleure insertion. C'est précisément cela qui est venu soutenir la célèbre et toujours très engagée soprano.
Au Canada, Sébastien Desrosiers, votre personnalité de la semaine s'appelle Hélène Rowley-Hott. Sa mort a ému tout le monde au Québec. Il s'agit de la mère d'un homme politique célèbre.
Oui, c'est la mère de Gilles Duceppe, ancien chef du Bloc québécois à Ottawa, chef pour toutes les élections entre 1997 et 2015. Donc sa mère, une dame de 93 ans, elle a été retrouvée morte gelée à l'extérieur de sa résidence pour aînés à Montréal dimanche. Elle a entendu la cloche d'incendie qui n'était qu'une fausse alarme et elle s'est précipitée à l'extérieur. Incapable de rouvrir la porte verrouillée, elle est restée prisonnière d'une tempête de neige. Elle n'a été retrouvée que 7 heures plus tard, imaginez. Donc oui, l'histoire a ému le Québec et maintenant le gouvernement promet des mesures plus strictes pour protéger les aînés qui vivent dans ce genre d'habitation. Il y en a plus de 150 000 dans la province.
On évoque à présent le sort de Patrick Kung. Il est l'un des piliers de l'équipe suisse de ski. En fait, il faut dire été, car il abandonne la compétition en pleine saison, Pierre-Anne Chauffard.
Oui, champion du monde de descente en 2015 à Beaver Creek, Patrick Kung l'a annoncé à Kitzbühel. À 35 ans, il a subi une commotion cérébrale il y a 10 jours et ses propos l'ont montré. Le doute et les craintes ont pris le dessus dans son esprit. La mort sur les pistes du français David Poisson, après celle de son ami Werner Elmer, ont laissé des traces. Patrick Kung n'était plus prêt à prendre ses risques. « Je suis heureux de pouvoir vous annoncer ma fin de carrière ici et pas depuis l'hôpital », a-t-il conclu.
En Suisse, Pierre-Anne Chauffat, les étudiants de l'université de Bâle ne pourront plus prendre l'avion pour des déplacements inférieurs à 1000 km.
Oui, en marge de la mobilisation des jeunes pour le climat, le conseil de l'université a donné suite à cette proposition de quelques étudiants pour réduire l'empreinte carbone. Les voyages universitaires sont concernés, mais pas encore les colloques auxquels se rendent les chercheurs. Les voyages d'études devront donc se faire en train si la distance n'excède pas 1000 km. L'université baloise doit encore définir les modalités et résoudre la délicate équation du prix, le rail coûtant souvent plus cher que l'avion. Elle réfléchit à un éventuel subside pour compenser la différence.
Et est-ce que cette démarche originale fait des émules en Suisse ou pas ?
Eh bien, des discussions ont lieu dans d'autres universités. Une haute école a par exemple calculé que les déplacements provoquaient tout de même le tiers de ses émissions de CO2. Mais Bâle est pour l'heure la seule à interdire carrément l'avion. L'université de Neuchâtel a privilégié des mesures incitatives selon le principe du pollueur-payeur, soit un prélèvement obligatoire sur tous les déplacements en avion. Jean-Marie Gretter, vice-recteur de l'université de Neuchâtel, est en charge du développement durable.
Il y a actuellement tout un éventail de la restriction quantitative type Bâlois, à des mesures plus incitatives comme la nôtre. Personne ne sait véritablement quelle est la mesure la plus efficace ou la plus appropriée, mais nous sommes en phase d'expérimentation. Le trait commun, si vous voulez, à toutes ces initiatives, c'est la conviction qu'il faut faire quelque chose de façon relativement urgente.
Et c'est d'autant plus urgent que le Times Higher Education, un classement reconnu, vient d'inclure le bilan écologique des universités dans ses critères.
C'est une première en France. Le maire d'une commune porte plainte contre l'État pour non-respect des engagements climatiques. Plainte déposée devant le Conseil d'État, le maire écologiste de Grande-Synthe, Damien Carême, veut ainsi contraindre le gouvernement français à protéger la population du réchauffement climatique et notamment de la montée des eaux qui menace sa propre commune.
J'enjoins l'État à prendre les décisions pour limiter ce changement climatique. Il n'y a pas un secteur en particulier. Il faut lutter contre le réchauffement climatique. Il faut baisser le CO2, les émissions de CO2, les gaz à effet de serre. Quand le ministre, il y a 2 mois, a botté en touche en disant c'est pas devant les tribunaux qu'on réglera ça, ben si, c'est devant les tribunaux. La France était la plus mauvaise élève en matière de pollution atmosphérique, de qualité de l'air en France. L'État ne bougeait pas jusqu'à ce qu'il y ait un recours auprès de la Cour de justice européenne qui a enjoint l'État français de mettre en œuvre un plan sous menace de quelques milliards de pénalités. Et du coup, l'État met en place un plan de lutte contre la pollution atmosphérique dans les grandes agglomérations.
Le maire de Grande-Synthe attend désormais des actes concrets de l'État pour protéger sa commune de la montée des eaux. Avec cette procédure, la réponse de l'État est devenue obligatoire. Il faut dire qu'avant ce dépôt de plainte d'une commune française, 4 ONG se sont aussi retournées contre l'État français, là encore pour inaction climatique, notamment dans le développement des énergies renouvelables. À chaque fois, les plaignants reprochent à la France d'avoir laissé repartir à la hausse les gaz à effet de serre depuis 2015 et de n'avoir pris aucune mesure efficace à court terme. L'objectif est bien de contraindre l'État français à agir. Au Canada, Sébastien Desrosiers, le registre des armes à feu fait l'objet d'un débat. Québec annonce qu'il assouplit les règles du programme 2 ans après l'attentat à la mosquée de Québec.
Oui, le registre, il existait partout au Canada jusqu'il soit aboli par le gouvernement de Stephen Harper en 2012. Le Québec a ressuscité le programme en janvier 2018, soit il y a 1 an. Depuis, les chasseurs doivent enregistrer fusils et carabines et déjà le gouvernement annonce des règles pour l'assouplir. Pourquoi? Parce que sur 1 600 000 armes au Québec, on estime que seulement 20% ont été enregistrées. Alors pour encourager les chasseurs à le faire, Québec, par exemple, n'exige plus de mesurer la longueur du canon. Et oui, cette annonce, curieusement, souvient presque 2 ans jour pour jour après la tuerie qui avait fait 6 victimes dans une mosquée à Québec, l'un des pires attentats dans l'histoire du pays.
Et comment ont réagi les survivants de cette attaque?
Aussi surprenant cela puisse paraître, ils ont réagi de manière somme toute positive. Mieux vaut cela que de se débarrasser du registre. Écoutez Boufelja Ben Abdallah de la communauté musulmane de Québec, mais aussi Nathalie Provost, survivante d'une autre attaque qui avait marqué le pays, celle survenue à l'École polytechnique de Montréal en 1989 qui avait fait 14 victimes.
Les musulmans ont subi dans leur corps des affres d'une tuerie, que ça ne revient pas chez d'autres. Et si on prévient et si on suit le traçage des armes qui sont en circulation, ben c'est une prévention très, très importante.
Les étudiants de Polytechnique à l'époque sont derrière la création du premier registre fédéral. Alors on a été profondément déçus par sa destruction en 2012. Donc cette loi va s'appliquer et elle est là pour rester. On ne peut qu'être heureux.
Alors, certains chasseurs s'opposent toujours au registre de l'argent gaspillé, disent certains, alors que ce n'est pas le fusil qui tue, mais la personne qui le tient. Un argument souvent entendu aux États-Unis qui traverse la frontière.
La Belgique, Nathalie De Vic, la Belgique s'est alliée avec le Grand-Duché du Luxembourg pour légiférer dans le domaine spatial.
Non que l'exploration et l'exploitation spatiale ne soient déjà réglementées, mais le traité des Nations Unies datant de 1967 ne serait plus adapté aux nouvelles opportunités qui s'ouvrent aujourd'hui. Pour le ministre de l'économie luxembourgeois Étienne Schneider, il ne suffit plus d'affirmer que l'espace est un bien commun dont aucune nation ne peut revendiquer la propriété.
Il faut adapter cette législation. C'est pour ça que le Luxembourg s'est dit, on va faire un parallélisme entre ce qu'on veut faire dans l'espace et ce qu'on fait actuellement avec les océans. Les océans, selon les Nations Unies également, n'appartiennent à personne. Donc ils n'appartiennent à aucun État, mais chacun a le droit d'y pêcher, chacun a le droit de posséder les poissons qu'il trouve et de les commercialiser.
Le Luxembourg est le 2e pays, après les États-Unis, à avoir instauré un cadre légal pour l'exploitation des ressources minières de l'espace. Il a depuis lors signé des alliances avec de nombreux pays, allant du Japon aux Émirats Arabes Unis, rejoint cette semaine par la Belgique. Belgique qui demande une réglementation européenne pour pour distinguer droit individuel et intérêt collectif. La volonté est très simple, c'est de garantir aux entreprises d'extraction spatiale la pleine propriété de leurs trouvailles. Une façon aussi pour les petits pays de ne pas se laisser dépasser par les grandes puissances américaines, russes et chinoises dans un marché qui pourrait bientôt représenter des dizaines de milliards d'euros et des centaines de millions d'emplois. En attendant aussi une nouvelle législation internationale, cette fois, qui réglerait par la même occasion le problème des déchets de l'espace, déchets de plus en plus nombreux et dangereux.
En Afrique, c'est l'aboutissement d'un rêve vieux de 50 ans, un pont entre la Gambie et le Sénégal. Eh bien, ce pont a été inauguré cette semaine, Marie-Pierre Olfan.
Oui, ce nouveau pont enjambe le fleuve Gambie. Il va permettre de relier Dakar à Ziguinchor, la principale ville de Casamance, en 8 heures. Avant sa construction, il fallait attendre le bac durant des heures, parfois des jours, pour traverser. Le pont, c'est donc la fin annoncée des embouteillages, comme s'en réjouissent d'ailleurs ses habitants gambiens et sénégalais.
C'est très content. Pour les deux pays, c'est la révolution. Pour les deux peuples de Gambie et Sénégal, c'est la révolution.
Ici, il y a des gens qui ont perdu ici des moutons.
Parce que le bac mettait trop de temps.
Trop de temps. Les gens passaient une semaine pour passer pendant les fêtes.
Cela faisait 50 ans que le projet était dans les tiroirs, mais faute de financement ou à cause de tensions entre les deux pays voisins, l'ouvrage n'a pas pu voir le jour plus tôt. Son inauguration à un mois de la présidentielle au Sénégal tombe à pic. Le président Macky Sall a salué un nouveau pas pour l'intégration sous-régionale.
Plus qu'un pont, cette infrastructure grandiose porte le symbole de ce lien de fraternité sénégambienne. Que chaque Gambien est chez lui au Sénégal et chaque Sénégalais chez lui en Gambie.
Le pont est pour l'instant seulement ouvert aux voitures. Les camions devront attendre cet été pour circuler.
Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.